Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Plus que 10 jours pour la tenue des élections 2023 en RDC. La CENI vient de réceptionner le dernier lot de matériel électoral commandé en Chine. Il s'agit des documents sensibles des bureaux de vote, a annoncé la centrale électorale dans un communiqué hier. La Chine supprime les droits des douanes en faveur de 6 pays africains dans la RDC. Annonce faite cette semaine par le Conseil des affaires d'État chinois dans un communiqué. La mesure concerne 98% des produits imposables. Elle vise à incarner l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine, indique la même source. Et puis, l'invité de ce matin, Crispin Maloubouni, président intérimaire du Conseil d'administration des universités du Congo. Il s'exprime sur la clôture la semaine dernière à Mbujimayi de la 46e session du Conseil d'administration des universités du Congo. Madame, Messieurs, bonjour. La Commission électorale nationale indépendante CENI a réceptionné peu après minuit de vendredi le dernier lot du matériel électoral commandé en Chine d'un tonnage de 92 884 kilos. Il est composé des documents sensibles des bureaux de vote. La CENI, qui l'a annoncé dans un communiqué, dit qu'il s'agit des fiches de résultats et des procès-verbaux des opérations de vote supervisées et conditionnées par ses équipes. Celles-ci étaient dépêchées sur place depuis plusieurs semaines et réparties par circonscription, par antenne et par province. Alain Rongouchinch nous en dit plus.
Aussitôt débarqué, cet ensemble des documents sensibles a pris la direction de l'entrepôt de la CENI avant l'opération de transbordage en vue de son acheminement dans les provinces. Pour ne pas favoriser une quelconque manipulation, le matériel est hautement sécurisé, précise la CENI. C'est au petit matin du samedi 9 décembre 2023 que le personnel commis à la tâche a opéré des groupages par destination avant leur nouvel embarquement en vue d'être acheminé vers les destinations respectives, pendant qu'une autre quantité demeure bien évidemment à Kinshasa. Il importe d'indiquer que le matériel non sensible produit localement avait déjà fait l'objet du déploiement, indique la CENI.
Notez qu'en ce qui concerne le déploiement du matériel électoral, la République d'Angola va apporter un appui logistique à la CENI pour le déploiement du matériel électoral sensible. Kinshasa et Luanda ont décidé de mettre en place la flotte aérienne angolaise justement pour déployer les fiches des procès-verbaux et des bulletins de vote des élections du 20 décembre à travers la RDC. Cette intervention arrive après la demande formulée par la CENI au gouvernement congolais afin que ce dernier lui donne des avions et hélicoptères pour déployer rapidement le reste de son matériel. Voyons à présent les activités des candidats présidents de la République. Moïse Katumbi a tenu son meeting hier à Kinshasa, au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili. Le candidat numéro 3 a été accueilli à l'aéroport par ses partisans qui ont marché avec lui jusqu'au lieu du meeting. Il a notamment fustigé la mauvaise gestion du régime sortant en promettant aux Kinois de leur rendre leur dignité. C'est un reportage de Paul Matendo Mayamba.
Moïse Katumbi a commencé par inviter ses sympathisants à une minute de silence en mémoire de Chérubin Okende. Ensuite, il a notamment fustigé le chômage, la hausse constante du taux de dollar américain, le manque d'électricité et d'eau, les embouteillages auxquels les Kinois font face. Le candidat numéro 3 a promis de sécuriser les Congolais en ripostant toute provocation des pays voisins au lieu de pleurnicher à Tidi. Il a également promis de rendre à la ville de Kinshasa sa propriété d'antan qui faisait d'elle Kinlabel. La construction de routes, celle de 3 stades de football moderne, la promotion du sport ont fait partie de ses promesses. Moïse Katumbi a fustigé les arrestations du député provincial Mike Mukebayi, celle de son conseiller spécial Salomon Kalonda et du journaliste Stanibou Jakera, tout en promettant leur libération dès son élection. Enfin, le candidat numéro 3 a appelé les Kinois à la vigilance le 20 décembre et à ne quitter le bureau de vote qu'après le comptage de voix pour éviter un hold-up électoral, a-t-il conclu.
C'est avec force que je dénonce les agissements malveillants du pouvoir sortant qui multiplient des stratagèmes afin de nous empêcher de mener normalement notre campagne électorale. C'est en tout cas la déclaration du candidat Denis Mukwege, contenue dans sa lettre d'indignation du 8 décembre 2023, publiée à travers ses réseaux sociaux. Dans ce document, le candidat numéro 15 dénonce plusieurs faits, l'absence du traitement des candidats à titre égal, conformément à la loi, ou encore le réquisitionnement des appareils pour l'empêcher de faire campagne, dit-il. D'autres détails avec Fulbert Balolagué.
Dans cette note d'indignation, Denis Mukwege cite à titre illustratif qu'à Goma, les panneaux de campagne portant ces effigies ont été sciés sur ordre du maire de la ville dans la journée du mercredi 6 décembre 2023 en prévision de l'arrivée du président sortant. Cela les pousse à rappeler que conformément à la loi, quiconque se livre pendant la campagne électorale à la destruction d'affiches, de photos et autres effigies de propagande électorale des candidats et des partis politiques est puni d'une peine de servitude pénale. Il ajoute que la même pratique a été observée à Kinshasa et à Kananga. Denis Mukwege écrit que dans plusieurs aéroports, notamment à Bunia et Kisangani, le carburant est réquisitionné par les camps au pouvoir afin de bloquer l'approvisionnement des autres avions devant transporter des candidats qui mènent leur campagne électorale. À l'aéroport de Bukavu et de Goma, des avions sont également réquisitionnés, empêchant ainsi tous leurs mouvements de campagne. Enfin, le candidat numéro 15 condamne avec force cette manière d'agir qui ne garantit pas un processus électoral équitable, crédible et transparent, note-t-il.
Toujours dans le cadre de la campagne électorale, hier samedi, Félix-Antoine Tshisekedi était à Walungu au sud Kivu. De son côté, Tony Cassius Bolamba, qui est à Kisangani dans la Tshopo, a rencontré des jeunes avant de tenir sa conférence de presse. Quant à elles, les candidates Joël Bilé et Marie-Josée Ifoku poursuivent leur campagne pour l'instant sur place à Kinshasa. Adolphe Muzito a tenu son meeting en Mbujimayi au Kasai oriental. Il a promis notamment de développer l'agriculture et de construire des routes pour désenclaver la province. Jean-Claude Baende a également tenu son meeting en Mbandaka dans la province de l'Équateur et Martin Fayoulou est à Guémena dans le sud Ubangi. Pendant ce temps, au nord Kivu, à quelques jours de la tenue des élections, plusieurs habitants des localités éloignées du territoire de Beni n'ont toujours pas leur duplicata des cartes d'électeurs. C'est par exemple ceux du groupement de Bassoa Amadiwe, dont la plupart ont des cartes illisibles. La société civile locale plaide pour un déploiement urgent des machines pour leur octroyer des duplicata. En réaction, la CENI dit avoir résolu ce problème. Guylaine Kassassia.
Selon la société civile du groupement de Bassoa Amadiwe, ils sont nombreux les électeurs qui risquent de ne pas voter le 20 décembre prochain par manque de duplicata. Ces derniers ont du mal à se rendre dans la commune de Wisha où l'on peut trouver une machine compte tenu de la distance estimée à environ 70 km. Contacté, la CENI dit avoir déployé 18 machines dans les 9 grandes entités du territoire de Beni à raison de 2 machines par entité. Ainsi, les requérants de Bassoa Amadiwe peuvent se rendre dans la commune de Mangina, plus proche que Oisha Umpaou pour obtenir des duplicata, indique la CENI. La centrale électorale en profite pour éviter les électeurs à se rendre sans délai dans l'entité la plus proche pour trouver solution à leurs différents problèmes, y compris ceux qui ont été omis de liste électorale. Jusque-là, plus de 50 000 duplicata de cartes d'électeurs ont déjà été délivrés à travers les territoires de Beni, indique la CENI. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, le Conseil des affaires d'État chinois a annoncé cette semaine la levée des droits de douane sur les importations de 6 pays africains, à savoir la RDC, l'Angola, la Gambie, le Mali, Madagascar et la Mauritanie. Cette suppression des tarifs douaniers entrera en vigueur le 25 décembre prochain. D'autres précisions avec vous, Jacques-Yves Molima.
La mesure concerne 88% des produits imposables en provenance de ces pays, comme le café, l'huile de palme, le coton, le cacao, les fruits ou encore le fruit des mers et les épices. Tous ces produits étaient jusqu'à présent taxés à leur arrivée en Chine. Selon le communiqué de l'agence Chine Nouvelle, cette politique d'expansion tarifaire vise à incarner l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine et à faciliter la création d'une communauté sino-africaine de haute qualité et de destin commun. Il devrait à terme être étendu à tous les pays africains les moins avancés avec lesquels la Chine a établi des relations diplomatiques. Selon les douanes chinoises, les échanges commerciaux entre la Chine et les continents sur les 10 premiers mois de 2023 approcheraient les 218 milliards d'euros, dont près de 85 milliards d'euros d'importation des produits africains.
Et puis, le délégué général à la francophonie en République démocratique du Congo encourage les jeunes entrepreneurs congolais à saisir l'opportunité qui leur est offerte pour nouer des relations d'affaires en Roumanie, en Europe centrale et orientale. Le professeur Mabiala Maumba l'a fait savoir hier à travers un communiqué. Il précise que cette opportunité fait présentement l'objet d'un appel à candidature lancé par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en vue de sélectionner des entreprises opérant dans l'un des secteurs économiques suivants. agroalimentaire, numérique, soit cybersécurité, industrie des jeux vidéo, énergie verte et industrie médicale. On écoute à ce sujet le professeur Mabiala Maumba. Il donne des détails au micro d'Alain Rong.
Les entrepreneurs qui seront sélectionnés seront invités à effectuer une mission économique et commerciale en Roumanie, à Bucarest, la capitale, du 27 au 29 mars 2024. Pendant leur séjour à Bucarest, ces entrepreneurs prendront part, sous l'encadrement de quelques experts, à un forum économique de haut niveau, à des sessions de mise en relation d'affaires entre entreprises et, bien entendu, à des visites des sites d'entreprises. Ils bénéficieront également des opportunités de réseautage et d'échanges informels, ainsi que des opportunités commerciales et d'investissement, grâce aux rencontres qui seront préparées et facilitées par des experts. Mais bien avant d'aller sur place à Bucarest, il est prévu des sessions de relations d'affaires B2B, comme on dit. Ces sessions auront lieu en ligne en février et au début du mois de mars 2024. Je signale que cette mission économique et commerciale s'inscrit dans le cadre de la stratégie économique pour la francophonie 2020-2025.
Le délégué général à la francophonie invite les entrepreneurs congolais désireux de profiter de cette opportunité à faire acte de candidature à travers le site de l'OIF www.francophonie.org. La date limite des dépôts des candidatures est le 22 décembre 2023. Rendons-nous en Ituri. Une pénurie de carburant s'observe depuis vendredi à Bunia, où plusieurs stations sont actuellement fermées. Conséquence, le prix de l'essence a presque doublé chez les revendeurs. La plupart des propriétaires des véhicules ont retiré leurs véhicules de la circulation et même certains candidats qui utilisaient leurs véhicules pour battre campagne. Selon la Fédération des entreprises du Congo, FEC, l'impraticabilité de la route nationale numéro 27 est à l'origine de cette fluctuation des prix sur les marchés. Isaac Remoyope, reportage.
C'est depuis le vendredi soir que de nombreux taximens et chauffeurs de véhicules font la queue devant les rares stations qui sont encore opérationnelles. Même ce samedi matin, des centaines de conducteurs de motos et chauffeurs attendent avec impatience pour s'approvisionner en carburant. Un litre s'est vend actuellement 5000 francs congolais et 7000 francs chez les revendeurs, précisent-ils. Selon eux, le prix pourra être majoré au courant de la journée à Bunia à cause de la rareté des carburants, comme à l'intérieur de la province où un litre se négocie même à 10000 francs congolais. Une dizaine d'autres stations qui ne disposent plus de stocks de carburant sont déjà fermés dans la ville de Bunia. Selon la Fédération des commerçants, plusieurs véhicules citernes sont bloqués dans les bourbiers sur les tronçons Bunia-Mahagi. La population déplore déjà les conséquences de cette pénurie de carburant. Une course de motos est passée de 1000 à 2000 francs congolais. Plusieurs véhicules et motos sont retirés de la circulation. Même les candidats qui battent campagne s'en plaignent et ont réduit leur mobilité ou suspendu carrément la campagne. Ils lancent un appel pressant au gouvernement de décanter cette situation qui vient exacerber la souffrance de la population. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema. L'université de Kindu, dans le cadre de son partenariat avec l'université de Kisangani, a lancé officiellement vendredi 8 décembre l'ouverture du programme du troisième cycle. Selon le secrétaire général chargé de la recherche à cette université, l'objectif est d'abord de préparer la relève, mais aussi de pouvoir permettre à cette université d'être autonome. Professeur Casimir Ngumbi Kitete en parle au micro de Florence Kizalunga.
Le bien fondé, c'est la préparation de la relève. Le bien fondé, c'est la formation des formateurs. Le bien fondé, c'est l'autonomisation de cet alma mater. Vous savez qu'il y a eu aussi des universités qui ont été créées au même moment, la même période, qui aujourd'hui sont devenues autonomes. Vous lancez, vous regardez au Nord Kivu. Les acteurs là-bas n'étaient pas restés distraits. Plusieurs amis du Nord Kivu se sont mobilisés, de l'évêque catholique en passant par Malumalu et les autres grands acteurs, Père Alera. Ils ont compris tout de suite qu'il fallait envoyer l'intelligentsia du Nord Kivu en Europe. Et beaucoup ont défendu leur thèse. Et regardez, hein, ils sont nombreux. Et d'ailleurs, je vous informe, dans le cadre de la proximité avec le Nord Kivu, plusieurs professeurs, certains amis, vont venir ici aussi pour mettre la main à la pâte et aider l'université de Kindu à se relever. La valeur ajoutée, c'est que plus question pour les candidats de se déplacer. Et lorsqu'ils ont fini, ils peuvent nous aider à atteindre l'objectif majeur qui est celui de préparer la relève.
Actualité internationale. Le fils du président somalien, accusé d'homicide involontaire pour avoir renversé et tué un coursier à Istanbul, en Turquie, a pris la fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, ont rapporté hier les médias turcs. L'accident est survenu en pleine journée du 30 novembre dernier. L'affaire, dénoncée notamment par le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, opposant déclaré au président Recep Erdogan, suscite beaucoup d'émotions car le suspect, Mohamed Hassan Sheikh Mahmoud, avait été libéré sans contrôle judiciaire après un premier rapport de police, indiquent les mêmes sources.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le professeur Crispin Malobouni, président intérimaire du Conseil d'administration des universités du Congo. Il s'exprime sur la clôture la semaine dernière à Mbujimayi au Kasaï-Oriental de la 46e session du Conseil d'administration des universités du Congo. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour le bon fonctionnement des institutions universitaires. Professeur Crispin Malobouni s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, professeur Crispin Malobouni. Quel a été le but de ces assises?
D'abord, il faut dire que le Conseil, d'après la loi, organise chaque année deux sessions statutaires, deux sessions ordinaires. Nous avions déjà tenu une première session ordinaire à Colésie. Celle-ci, c'est la deuxième session ordinaire. Et nous avons, depuis une quinzaine d'années, arrêté le principe de rotation entre les provinces. On fait au centre, on fait à l'ouest, c'est ça. On fait au nord, on fait au sud, on fait à l'ouest. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire ça au centre, savoir à Mbujimayi. Et puis, l'avantage de venir aussi à Mbujimayi, c'est de montrer que, malgré la jeunesse de l'université officielle de Mbujimayi, qui vient à peine de fêter ses 25 ans, elle est capable d'abriter les travaux aussi importants que ceux de la session du conseil d'administration. C'est pour cela que nous sommes là. Voilà.
Quelles sont les recommandations qui ont été formulées à l'issue de ces travaux?
D'abord, quand nous venons comme ça, nous avons un ordre du jour. Dans l'ordre du jour, d'habitude, nous faisons le tour de l'état des lieux de la marche des universités. Parce que pratiquement toutes les universités ont été représentées ici. Chaque recteur nous dit où il en est avec son université. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Après ça, nous avons des points spécifiques que nous examinons. Pour cette session-ci, nous avions deux points spécifiques que nous avons examinés. Le premier, c'est la mise en place des centres de pédagogie universitaire. Donc nous avons discuté de ce point-là en dehors du fait qu'il y a eu aussi, comme d'habitude, l'examen des dossiers de nomination et de promotion. Alors pour moi, le plus important aujourd'hui là, qui est inscrit au jour, c'est la décision que nous avons prise de mettre en place dans chacune de nos universités des cellules de pédagogie universitaire. Parce que les enseignants doivent être entraînés à la pédagogie universitaire qui doit être différente de la pédagogie au primaire et au secondaire. Donc il y aura une formation diplômante, ça veut dire que tous ceux qui vont prétendre à être nommés professeurs associés, ils devront détenir le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement supérieur. Un certificat sera délivré après une formation de 3 à 6 mois dans les centres de pédagogie universitaire que nous avons mis en place suivant les pôles. Nous avons le pôle Katanga qui comprend les universités du Katanga, plus Kindu, plus les universités du Kasai. Nous avons le pôle de l'Ouest, Kinshasa, Bakongo, Bandundu, et aussi Mbandaka. Et puis nous avons le pôle de Kisangani qui comprend Kisangani plus les établissements de l'ancien Kivu. Donc ce sont ces centres-là qui seront gérés par des gens qui ont une formation avérée en pédagogie universitaire qui vont former ces gens-là pour leur donner le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement supérieur. Ça, c'est la formation diplômante. Mais les centres vont également former les gens de manière continue. Ça veut dire quoi? Tous les enseignants, à commencer par les chefs de travaux, les assistants, les chefs de travaux et les professeurs, chaque année, ils suivront une formation permanente en pédagogie universitaire. Ça veut dire qu'au début de l'année, avant que les cours ne commencent, on les réunit, on leur dit comment il faut préparer le cours, comment il faut préparer le syllabus. Et puis, au début de la session, on les réunit encore, on leur indique comment il faut évaluer parce qu'on ne peut pas interroger comme on interroge à l'école secondaire. Il y a aussi des principes qu'il faut respecter. Donc ça, pour moi, c'est une des grandes décisions que nous avons prises ici, plus les nominations concernant ceux qui ont demandé d'être admis à la méritant, ceux qui ont demandé d'être premier chef de travaux, professeur associé, professeur et professeur ordinaire. Voilà.
Vous avez aussi abordé le problème de l'indisponibilité de certains professeurs qui ne viennent que pour quelques jours pour dispenser les cours, mais qui touchent les salaires pour une année. Et comment trouver des solutions par rapport à ça?
Oui, oui. Cela concerne principalement nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Comme vous savez que nous avons une carence de professeurs, à un moment, Mgr Tshibang avait autorisé par son âme qu'on puisse recruter les compatriotes de la diaspora pour venir assurer les enseignements. Il y a un arrêté du ministre Mbemba qui réglemente cela et qui leur exige de rester sur place au moins 3 mois, sans interruption, pour encadrer les étudiants. Comme vous savez, la présence de l'enseignant aussi sécurise l'étudiant. Parce que l'étudiant sait que quand j'ai une difficulté, je peux m'adresser à mon professeur. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Tous nos compatriotes qui sont à l'étranger, ils viennent pour une semaine et demie, maximum un mois, ils assurent leur cours, en état record, ils repartent. Entre-temps, ils touchent le salaire de 12 mois. Et l'enseignement en pâtit. Alors nous avons pris la décision de les aborder, de les conscientiser d'abord de manière pédagogique. Ils doivent comprendre ça. Ensuite, s'ils n'acceptent pas, ils doivent choisir un autre statut.
Merci beaucoup, professeur.
Voilà, professeur Crispin Maloubouni, président intérimaire du Conseil d'administration des universités du Congo, répondait aux questions de Esther Ndalafina. Par ici prend fin ce journal, supervisé par Alain Irong Mouchinj, Alain Goy à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.